Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Nous avons souvent mentionné cette phrase de saint Paul qui résume notre manière de vivre en chrétien. Par l'Esprit Saint, nous sommes connectés à la vie du Christ, sa vie humaine et divine. Nous entrons pleinement dans le projet de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, nous dit saint Paul. En correspondant à la grâce qui nous est donnée, nous exprimons dans notre vie la sainteté même de Dieu. Et nous en avivons chaque jour le désir quand dans notre prière nous disons au Seigneur « Que ta volonté soit faite ». Depuis que le péché est entré dans le monde, notre monde est marqué par le désordre, par la rébellion contre Dieu. Le grand drame de l'histoire, c'est cette rébellion des créatures libres contre le Créateur. D'abord celle des anges, puis de nous, les hommes. Lorsque Jésus nous sauve en nous unissant à lui, il nous rend notre dignité originelle en soignant notre volonté rebelle, en l'unissant à la sienne. Dans son agonie, nous l'avons déjà vu ensemble, il a assumé le drame de cette liberté humaine qui doit s'ajuster pleinement à la volonté divine. Il les a réunis parfaitement. Et dans la puissance de sa résurrection, il nous donne la ferme espérance de vivre nous aussi dans une pleine cohérence, une pleine vérité par rapport à la volonté divine. La volonté du Seigneur, elle se manifeste d'abord dans ce que nous appelons la loi naturelle. Nous l'avions évoqué déjà en tout début d'année lorsque nous avons parlé de la création. Par l'exercice de la raison, l'homme peut analyser et comprendre le fonctionnement normal et sain des choses de ce monde. Et à partir de là, il peut percevoir ce qu'il convient de faire pour faire bien, pour faire le bien. La loi naturelle exprime ce sens moral originel qui permet à l'homme de discerner par la raison ce que sont le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Ce que Dieu a créé est bon. Et cette bonté originelle dans la création n'est pas entièrement perdue par les suites du péché, même s'il y a des désordres dans le monde à tous les niveaux. L'homme n'est pas parfait dans ses raisonnements. Il est blessé jusque dans son intelligence, dans sa volonté, dans son psychisme. Et même quand il discerne la vérité, il ne trouve pas la force de s'y conformer. C'est la fragilité propre à notre nature humaine blessée. Quand on ne fait pas l'effort de vivre comme on pense, on finit souvent par penser comme on vit. On en arrive même parfois à se mentir à soi-même sur la vérité des choses, sous la pression de la facilité et de nos fragilités. Toutes ces fragilités personnelles et communautaires font qu'il n'est pas toujours évident de discerner cette loi naturelle et encore moins de s'y conformer. Si beaucoup de religions se rejoignent sur certains aspects fondamentaux, il y a souvent des erreurs, des incohérences. Les préceptes, les commandements de la loi naturelle ne sont pas perçus par tous d'une manière claire et immédiate. C'est pour cela que nous disons que dans la situation actuelle, la grâce et la révélation nous sont nécessaires pour que ces vérités religieuses et morales puissent être connues de tous et sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs. Et c'est pour cela qu'un aspect important de la révélation passe par l'expression claire de cette loi. Le décalogue, Les tables de la loi que le Seigneur a données à Moïse ne font pas autre chose que d'exprimer clairement des fondamentaux de la loi. Les préceptes du Décalogue posent les fondements de la vocation de l'homme façonné à l'image de Dieu. Ils interdisent ce qui est contraire à l'amour de Dieu et du prochain, et ils prescrivent ce qui lui est essentiel. Le Décalogue est une lumière offerte à la conscience de tout homme pour manifester l'appel et les voies de Dieu et le protéger contre le mal. Selon notre tradition chrétienne, cette loi du Décalogue, nous disons qu'elle est sainte, elle est spirituelle, elle est bonne, mais elle est encore imparfaite. Comme un maître d'école, elle montre ce qu'il faut faire, mais elle ne donne pas de soi la force, la grâce de l'esprit pour l'accomplir. Cependant, cette loi demeure la première étape sur le chemin du royaume. Elle prépare et dispose le peuple élu, le peuple d'Israël d'abord, et finalement chaque chrétien, à la conversion et à la foi dans le Dieu sauveur. Elle procure un enseignement qui subsiste pour toujours, qui est toujours valable. C'est vraiment la parole de Dieu. La loi plus parfaite, la perfection de la loi, c'est ce que nous appelons la loi nouvelle, la loi de l'Évangile. Elle est l'œuvre du Christ. Elle s'exprime particulièrement dans le sermon sur la montagne. C'est dans l'Évangile de Saint Matthieu, les chapitres 5 à 7. Cette loi est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint. Et par lui, elle devient une loi intérieure, la loi de la charité. Le prophète Jérémie annonçait cette loi nouvelle. « Je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Cette promesse se réalise dans le don du Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, spécialement en parlant de la Pentecôte, et le sacrement de la confirmation qui réalise cette Pentecôte pour chacun. La loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit donnée aux fidèles par la foi au Christ. Elle opère par la charité, par l'amour. Elle use du sermon du Seigneur sur la montagne pour nous enseigner ce qu'il faut faire. Et elle use des sacrements pour nous donner la grâce, la force de le faire. Le Christ n'ajoute pas de préceptes nouveaux, mais il va jusqu'à réformer la racine des actes, le cœur, là où l'homme choisit entre le pur et l'impur, là où se forment la foi, l'espérance et la charité, et avec elles toutes les autres vertus. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, réalise l'union en lui de l'homme avec Dieu et des hommes entre eux. Nous voyons en lui la réalisation ultime et parfaite de la loi. Le Décalogue était gravé sur deux tables. Les trois premiers commandements concernaient la relation à Dieu. Les derniers commandements concernaient la relation aux hommes. Sous ces deux aspects, Jésus nous intègre dans sa relation au Père. Et cela détermine désormais toute notre manière d'être en relation avec Dieu. Et il nous intègre dans son don d'amour aux hommes, ce qui change tout dans notre manière d'être au monde. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors, ce soir et la prochaine soirée, nous observerons d'un peu plus près comment Jésus nous invite à intégrer ses commandements. Jésus a résumé les devoirs de l'homme envers Dieu par cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Une parole qui vient de loin, qui fait écho à l'Ancien Testament, à la prière du Schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Dieu a aimé le premier Les commandements vont expliciter la réponse d'amour que l'homme est appelé à donner à Dieu. Alors, le premier commandement, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. À l'amour de Dieu qui se révèle, nous répondons fondamentalement par la foi, par l'espérance, par la charité. Nous avons déjà évoqué plusieurs fois ces vertus théologales que l'Esprit Saint infuse en nous et qu'il s'agit de cultiver activement. Saint Paul parle de l'obéissance de la foi comme de la première obligation. Saint Paul fait voir dans la méconnaissance de Dieu le principe et l'explication de toutes les déviations morales. Notre premier devoir à l'égard de Dieu est de croire en lui et de lui rendre témoignage. Il s'agit donc de nourrir et de garder avec prudence et vigilance notre foi et de rejeter tout ce qui s'oppose à elle. Alors, il y a diverses manières de pécher contre la foi, de défaillir dans la foi. Le doute volontaire néglige ou refuse de tenir pour vrai ce que Dieu a révélé et que l'Église propose de croire. Le doute involontaire désigne plutôt l'hésitation à croire, la difficulté de surmonter les objections liées à la foi, ou encore l'anxiété suscitée par l'obscurité de la foi. S'il est cultivé, ce doute risque de conduire à un aveuglement, à une perte de la foi, un aveuglement de l'esprit. L'incrédulité, c'est la négligence de la vérité qui est révélée, ou le refus d'y donner son assentiment, le refus de l'accueillir. Plus grave encore, l'hérésie, c'est la négation obstinée pour un chrétien d'une vérité qui doit être crue par la foi, ou le doute obstiné sur cette vérité. L'apostasie, c'est le rejet total de la foi chrétienne. Le schisme, petite distinction, le schisme, c'est le refus de la soumission à l'autorité de l'Église qui est là pour nous aider dans la foi. Le refus de la soumission au pape ou de la communion avec les membres de l'Église. Pour nourrir sainement notre foi, pour qu'elle évite de, elle n'ait pas à défaillir, qu'elle ne se trompe pas, nous avons déjà dit que l'Esprit-Saint nous donne particulièrement les dons d'intelligence et de science qui viennent ajuster notre esprit à la manière de penser du Seigneur. Il nous faut également cultiver l'espérance. Lorsque Dieu se révèle à nous, nous sentons que nous ne pouvons pas répondre pleinement par nos seules forces, par nos propres forces. Nous devons espérer que Dieu nous donnera la capacité de l'aimer en retour et d'agir conformément au commandement de la charité. L'espérance est l'attente confiante de la bénédiction divine et de la vision bienheureuse de Dieu. L'espérance est aussi la crainte d'offenser l'amour de Dieu et de provoquer le châtiment. On peut aussi défaillir dans l'espérance, en particulier par les péchés de désespoir et de présomption. Alors, le désespoir, connaissons plus ou moins, le désespoir, c'est quand l'homme cesse d'espérer de Dieu son salut personnel, qu'il désespère d'accueillir, de recevoir les secours pour parvenir au salut, qu'il désespère de recevoir le pardon de ses péchés. Ce désespoir, c'est autre chose que la simple déprime, qui est au niveau psychologique. Ce désespoir, c'est vraiment l'oubli de l'amour de Dieu. La présomption qui grignote aussi l'espérance est de deux espèces. Parfois, l'homme présume de ses capacités quand il espère pouvoir se sauver sans l'aide de Dieu, ou bien il présume de la toute-puissance ou de la miséricorde divine en espérant obtenir le pardon sans conversion, ou obtenir la gloire sans mérite. Là encore, nous comptons sur les dons de l'Esprit-Saint pour soutenir notre espérance, sur le don de piété qui garde vivre notre conscience filiale. Nous comptons sur le don de crainte qui nous garde vigilants face à nos responsabilités. Et finalement, sur le don de sagesse qui nous garde dans la paix de la confiance. La foi dans l'amour de Dieu enveloppe l'appel et l'obligation de répondre à la charité divine par un amour sincère. Le premier commandement nous ordonne d'aimer Dieu par-dessus tout et toutes les créatures, pour lui et à cause de lui. On peut pécher de beaucoup de manières contre l'amour de Dieu en n'aimant pas assez. L'indifférence, l'ingratitude, la tiédeur, la paresse spirituelle. Le don de force vient à notre secours pour nourrir et raviver la flamme de l'amour. La charité nous porte à rendre à Dieu ce qu'en toute justice nous lui devons en tant que créature. Cette attitude de l'homme face à Dieu sous l'aspect de la justice, c'est ce qu'on appelle la vertu de religion. C'est dans l'amour que nous percevons cet appel, cet aspect incontournable. C'est à Dieu seul que tu rendras un culte. C'est là ce qui est juste. Ce culte que nous rendons à Dieu, c'est justement d'abord l'adoration. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et Sauveur, le Seigneur et Maître de tout ce qui existe, l'amour infini et miséricordieux. Adorer Dieu, c'est dans le respect et la soumission absolue, reconnaître le néant de la créature qui n'existe que par Dieu. Adorer Dieu, c'est comme Marie dans le Magnificat, le louer, l'exalter, s'humilier soi-même, en confessant avec gratitude qu'il a fait de grandes choses et que son nom est saint. L'adoration du Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. Cette adoration se réalise dans la prière, bien sûr. Cette élévation de l'esprit vers Dieu est une expression de notre adoration de Dieu. Prière de louange et d'action de grâce, prière d'intercession et de demande. La prière est une condition indispensable pour pouvoir obéir au commandement de Dieu. Car pour obéir, il faut d'abord écouter, entendre, être attentif, disposé à cultiver la relation. Il est juste d'offrir à Dieu des sacrifices en signe d'adoration et de reconnaissance, en signe de supplication et de communion. Un sacrifice, nous avons plusieurs fois croisé cette notion aussi, c'est en fait toute action, tout effort opéré pour nous unir à Dieu. Pour être véridique, le sacrifice extérieur doit être l'expression d'un sacrifice intérieur, un sacrifice spirituel. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, dit le psaume 50, que nous prions souvent. Le seul sacrifice parfait est celui que le Christ a offert sur la croix, en totale offrande à l'amour du Père et pour notre salut. En nous unissant à son sacrifice, nous pouvons faire de notre vie un sacrifice à Dieu. Nous avons déjà évoqué cela plusieurs fois. Par notre union à Jésus, par l'Esprit Saint, toute notre vie et tous nos actes entrent dans ce culte d'adoration envers Dieu. En plusieurs circonstances, le chrétien est parfois appelé à faire des promesses à Dieu. Le baptême et la confirmation, le mariage et l'ordination comportent toujours des promesses. Par dévotion personnelle, le chrétien peut aussi promettre à Dieu tel acte, telle prière, telle aumône, tel pèlerinage. La fidélité aux promesses que nous faisons à Dieu est une manifestation du respect et de l'amour que nous lui portons, l'amour envers le Dieu qui, lui, est fidèle à toutes ses promesses. Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne chacun individuellement, bien sûr, mais il concerne l'homme aussi socialement. Le devoir social des chrétiens est de respecter et d'éveiller en chaque homme l'amour du vrai et du bien. Il leur demande de faire connaître le culte de l'unique vraie religion dont témoigne l'Église. Les chrétiens sont appelés à être lumière du monde à la suite de Jésus. Le premier commandement interdit aussi d'honorer d'autres dieux que l'unique Seigneur qui s'est révélé à Israël. Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Alors, il n'y a pas vraiment de tentation de polythéisme autour de nous, mais il y a parfois derrière certaines attitudes spirituelles des pièges qui finalement détournent le cœur de cette fidélité au Seigneur. La superstition, par exemple, c'est une déviation du sentiment religieux, une déviation des pratiques religieuses. Cette superstition peut affecter aussi le culte que nous rendons au vrai Dieu. Par exemple, lorsqu'on attribue une importance en quelque sorte magique à certaines pratiques qui sont par ailleurs légitimes ou nécessaires. L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme, elle reste une tentation constante de la foi. L'idolâtrie consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse des dieux ou des démons, qu'il s'agisse du pouvoir, du plaisir, de la race, des ancêtres, de l'État, de l'argent, etc. Il peut y avoir beaucoup d'idoles, en fait. La vie humaine s'unifie dans l'adoration du Dieu unique. Le commandement d'adorer le seul Seigneur simplifie l'homme et le sauve d'une dispersion infinie. Il arrive que le Seigneur révèle l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne, juste et normale, consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. C'est là aussi l'expression du don de sagesse qui nous est donné par l'Esprit Saint. Toutes les formes de divination sont donc à rejeter fermement. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou d'autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, la consultation des horoscopes, l'astrologie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Tout cela est en contradiction avec l'honneur et le respect que nous devons à Dieu seul. Toutes les pratiques de magie aussi, de sorcellerie, de spiritisme, par lesquelles on prétend domestiquer des puissances occultes, sont gravement contraires à la fidélité que nous devons à Dieu. L'action de tenter Dieu consiste à le mettre à l'épreuve, en parole ou en acte, mettre à l'épreuve sa bonté et sa toute-puissance. Le défi que contient pareille tentation de Dieu blesse aussi le respect et la confiance que nous devons à notre Créateur et Seigneur. Le sacrilège consiste à profaner ou à traiter indignement les sacrements et les autres actions liturgiques, ou profaner les personnes, les choses et les lieux qui sont consacrés à Dieu. Là aussi, c'est une atteinte finalement au vrai Dieu, Finalement, il faut vérifier que notre foi ne se dilue pas dans une forme d'agnosticisme. Et c'est un peu le piège de notre civilisation occidentale moderne. L'agnosticisme se présente en fait comme un indifférentisme, une fuite devant les questions ultimes de l'existence, et finalement une paresse de la conscience morale. L'agnosticisme va conduire finalement à un athéisme pratique. On va vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et c'est le chemin que propose l'esprit du monde autour de nous. Le deuxième commandement nous dit « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. » Le nom du Seigneur, le deuxième commandement nous prescrit de respecter le nom du Seigneur. Il règle plus particulièrement notre usage de la parole par rapport à tout ce qui relève du domaine de Dieu, les choses saintes. Parmi toutes les paroles de la révélation, il en est une très importante qui est la révélation de son nom. Dieu confie son nom à ceux qui croient en lui. Il se révèle à eux dans son mystère personnel. Le don du nom appartient à l'ordre de la confidence et de l'intimité. Le nom du Seigneur est saint. C'est pourquoi l'homme ne peut en abuser. Il doit le garder en mémoire dans un silence d'adoration aimante. Il ne le fera intervenir dans ses propres paroles que pour le bénir, le louer et le glorifier. Dans le Notre Père, nous demandons chaque jour que ton nom soit sanctifié. La déférence à l'égard de son nom exprime celle qui est due au mystère de Dieu lui-même et à toute la réalité sacrée qu'il évoque. Les fidèles doivent témoigner du nom du Seigneur en confessant la foi sans céder à la peur. Ce témoignage doit toujours être pénétré d'adoration et de respect pour le nom de Dieu et pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce nom qui signifie tout son mystère. Jésus, il est le Seigneur qui nous sauve parce qu'il nous aime. Le deuxième commandement interdit l'abus du nom de Dieu, c'est-à-dire tout usage inconvenant du nom de Dieu, de Jésus, de la Vierge Marie et de tous les saints. Les promesses que nous faisons à autrui au nom de Dieu engagent l'honneur, la fidélité, la véracité et l'autorité divine. Leur être infidèle, c'est abuser du nom de Dieu et en quelque sorte faire de Dieu un menteur. Soyons donc très prudents et respectueux de ce nom sacré du Seigneur. Ce qui s'oppose à ce deuxième commandement, c'est le blasphème, le fait de proférer contre Dieu, intérieurement ou extérieurement, des paroles de haine, de reproche, de défi, de dire du mal de Dieu, de manquer de respect envers lui dans les propos, d'abuser du nom de Dieu. Lorsque nous sommes baptisés, nous le sommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans le baptême, le nom du Seigneur sanctifie l'homme et le chrétien reçoit son nom dans l'Église. Dieu appelle chacun par son nom et le nom de tout homme en retour en devient sacré. Le nom est l'icône de la personne. Il exige le respect en signe de la dignité de celui qui le porte. Le nom que nous recevons, que nous avons reçu, est un nom d'éternité. Dans le royaume, le caractère mystérieux et unique de chaque personne, marqué du nom de Dieu, resplendira en pleine lumière. Le troisième commandement du Décalogue nous rappelle la sainteté du sabbat. Le septième jour est un sabbat, un repos complet consacré au Seigneur. Nous avons déjà expliqué que ce jour saint a été transféré pour nous au dimanche, le jour du Seigneur, le jour qui marque l'inauguration de la nouvelle création. Il est devenu pour les chrétiens le premier de tous les jours, la première de toutes les fêtes. Il accomplit dans la Pâque du Christ la vérité spirituelle de l'ancien sabbat juif et il annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. La célébration du dimanche observe la prescription morale qui est naturellement inscrite au cœur de l'homme. Cette prescription de rendre à Dieu un culte extérieur, visible, public, communautaire et régulier pour rendre grâce pour les bienfaits du Seigneur. La célébration du jour du Seigneur et de l'Eucharistie du Seigneur est au cœur de la vie de l'Église. Nous l'avons déjà souvent dit. Cette pratique de l'assemblée chrétienne date du tout début de l'âge des apôtres. Et les premières infidélités datent de la même époque. La lettre aux Hébreux dit déjà aux chrétiens « Ne désertez pas votre propre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encore encouragez-vous mutuellement. » Le commandement de l'Église détermine et précise cette loi du Seigneur, l'Église qui nous demande « Le dimanche et les autres jours de fête et de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la messe. » Nous avons déjà évoqué sous plusieurs angles l'importance de l'Eucharistie pour notre vie spirituelle personnelle et communautaire. La participation à la célébration commune de l'Eucharistie est aussi un témoignage d'appartenance et de fidélité au Christ et à son Église. Les fidèles attestent par là leur communion dans la foi et dans la charité. Ils témoignent ensemble de la sainteté de Dieu et de leur espérance du salut. Ils se réconfortent mutuellement sous la guidance de l'Esprit-Saint. Le dimanche est également jour de grâce et de cessation du travail. Comme Dieu se reposa le septième jour après tout le travail qu'il avait fait, au livre de la Genèse, la vie humaine est rythmée par le travail et le repos. L'institution de ce jour du Seigneur contribue à ce que tous jouissent de ce temps de repos et de loisirs suffisants qui permettent de cultiver la vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. Le dimanche est traditionnellement consacré par la piété chrétienne aux bonnes œuvres et aux humbles services des malades, des infirmes, des vieillards. Les chrétiens sanctifient encore le dimanche en donnant à leur famille et à leurs proches le temps et les soins difficiles à accorder les autres jours de la semaine. Le dimanche est un temps de réflexion, de silence, de culture et de méditation qui favorise la croissance de la vie intérieure et finalement la croissance de toute la vie chrétienne. Alors nous avons brièvement parcouru les trois premiers commandements, relu ces trois premiers commandements, ce qui nous invite à cultiver une juste relation au Seigneur. Sous un certain aspect, il désigne des barrières qui nous retiennent de la chute, qui nous retiennent de blesser notre relation à Dieu. Mais plus profondément encore, ils invitent à un épanouissement de la relation qui est vraiment primordial dans notre vie humaine. Quand nous permettons au Seigneur de présider à la place qui lui revient dans notre vie humaine, lorsque notre liberté désire s'ajuster fidèlement à sa volonté, alors toute notre vie peut se construire solidement. Alors tout est à sa place dans notre vie, comme nous l'avons déjà dit. Et finalement, nous trouvons en toute expérience une étape sur le chemin de la joie. Car dans la sagesse que l'Esprit-Saint nous donne, nous savons que tout ira bien quand nous avançons sur le chemin de la volonté de Dieu. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui sont en alliance d'amour avec lui.